قبل الله صلاة الجميع. Je fais rapidement une présentation, inshallah. On a l'honneur d'avoir avec nous l'imam Najdi, Amin Najdi, inshallah, qui est président du CRCM en Lorraine, imam de la mosquée de Tomblaine à Nancy, et docteur en nutrition. Donc, inshallah, il va nous faire un petit rappel, inshallah, sur donc le sujet. Le sujet, inshallah, de la conférence, ce sera la place du musulman dans la société. Inshallah, un petit rappel sur ça. Et il va nous détailler, inshallah, tout ça. Donc, je vous demande, inshallah, d'être attentionné, bi'idhnillah. Et également, la prière de l'Isha, il se peut que, vu le temps, on ne la fasse pas tout pile à l'heure. Donc, on fera l'Aden, mais on restera assis. On terminera, inshallah, pour le dars derrière, inshallah. D'accord ? Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum. Fadal, inshallah.
الحمد لله الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وأنقذنا وفرج عنا الحمد لله بالإيمان الحمد لله بالقرآن الحمد لله بالإسلام الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وأظهر أمننا وأحسن معافاتنا وجمع فرقتنا وأحسن خلاصنا الحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذي الملك والملكوت ذي العزة والجبروت الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه ونبيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأفاضل أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده سالما موفقا من الشر معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ونسأله مولانا أن يخرجنا من ظلمات الوهم وأن يكرمنا بنور الفهم وأن يفتح علينا بمعرفة العلم وأن يسهل أخلاقنا بالحلم وأن يجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمة ثم أما بعد أيها الإخوة الأفاضل فأنا جد سعيد أن أحضر بين أيديكم بعد مدة طالت لعلها سنتين أو ثلاث سنوات فالله تبارك وتعالى جعل لنا نعمة الإسلام ويا لها من نعمة تجمع بين من تفرق وتقرب الأرواح فيما بينها ولا يوجد ذلك إلا بالإسلام وفي الإسلام فنسأل الله عز وجل أن يديمها علينا نعمة ونسأله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا من غير تعارف ومن غير أن يعرف بعضنا البعض أن يجمعنا غدا يوم القيامة في جنات النعيم أسأله مولانا أن يجعلنا غدا يوم القيامة على سرر متقابلين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم أما بعد أيها الأفاضل فقد طلب مني أن أقدم بين أيديكم موضوعا يخص المسلم في المجتمع أو دور المسلم في المجتمع أو واجب المسلم في المجتمع العبرة ليست بالأسماء وإنما العبرة بالمسميات فنحن كما تعلمون أيها الأفاضل نعيش في وقت كثرت فيه المحن نعيش في وقت يصدق ما تنبأ به رسولنا صلى الله عليه وسلم حين قال تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قيل أو من قلة نحن يا رسول الله قال لا ولكنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة وليقذفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت ولعل الحالة الراهنة التي يمر بها المسلمون في كثير من البلدان يعني خير دليل على ما تنبأ به رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أنه هو الصادق الأمين فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهذه المحن أيها الإخوة وهذه المصيبة لم تترك أحدا مست البلدان الإسلامية وهي تمس بصفة خاصة الأقليات المسلمة التي تعيش في بلدان غير مسلمة وخاصة الأقليات المسلمة التي تعيش في الغرب ونحن من تلك الأقليات. Donc chers frères, on m'a demandé de présenter entre vous un parmi vous un sujet concernant le musulman dans la société ou le devoir du musulman dans la société ou la place du musulman dans la société. Et vous n'êtes pas sans savoir que la communauté musulmane d'une manière générale passe ces jours-ci par une crise générale et une crise qui est très profonde, ce qui nous fait mémoriser ou bien remémoriser le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prophétie, lorsqu'il a dit arrivera un moment où les communautés s'empareront de vous comme ceux qui veulent manger s'emparent d'un plat. Et les compagnons étaient étonnés parce qu'ils voyaient qu'à l'époque les musulmans commençaient à s'épanouir et que normalement cet islam-là va se propager de plus en plus de par la promesse même d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'ils lui ont dit, est-ce que nous allons être peu nombreux, cher prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit non, vous allez être très nombreux, mais vous ressemblerez à l'écume des océans. Et Allah azza wa jalla enlèvera du cœur des autres communautés votre crainte, et il sèmera dans votre cœur al-wahan. Et on lui a dit, qu'est-ce que l'wahan, cher prophète? Il a dit, l'wahan c'est l'amour de la vie terrestre et la peur de la mort. L'attachement à la terre quelque part. Et nous sommes en train de passer par cette grande épreuve ou par cette prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans les pays d'origine musulmane, à majorité musulmane, ou dans les pays où les musulmans sont minoritaires, ce qui est bien entendu notre cas. Ma hiya al-fitnatu allati na'ishu fiha fi yawmina al-hadir ayyuha al-ikhwatu al-kiram. Nous savons que an-nadhir al-mutabassir ila tarikh al-muslimin fi al-gharb khassatan fi Faransa يرى أن حالهم الآن هو خير بكثير من حالهم قبل 20 أو 30 سنة. الناس حين قدموا إلى هذه البلدة قدموا من أجل العيش، قدموا من أجل المال، أو قدموا من أجل الأمن، أو قدموا من أجل الدراسة. وكان الناس أبعد ما يكونون عن دين الله تبارك وتعالى، وأنتم أعلم بذلك منا. كان الواحد فيهم إذا دخل وضع قدماه في أوروبا ترك وراءه كثيرا من تقاليده الدينية وكثيرا من تقاليده الوطنية، وقال قد أصبحت رجلا جديدا وجعل الدين ظهريا، ولكن الله عز وجل شاء غير ذلك. وهذا يذكرنا بقول الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله، قال طلبنا هذا الأمر، ويتكلم عن العلم، قال طلبنا هذا الأمر لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. كان هو لما كان صغيرا كان أبوه قبل أن يتوفى وجعله هو وابنه أخاه عنده أخوه وضعهما عند صديق الله ووضع عندهم ما تبقى له من مال وقال له لقد قرب أجلي فأنا أوصيك بأن يعني تحافظ على ابناي هذين وأن تربيهما تربية حسنة وأن تعلمهما الدين. فكان ذلك الرجل يعني قام بالوصية بعد موت والدهما، فيعني أخذ بعين الاعتبار تربية هذين الطفلين إلى أن انتهى المال الذي جعله له الأب أبي حامد الغزالي. فلما انتهى ماله جاء بالطفلين وقال لهما لقد انقضى مال أبيكما وأنا لا أقدر على تربيتكما، فسوف أضعكما في مدرسة شرعية تعلم الدين، فهي تتكفل بأكلكما وشربكما ومنامكما. فدخلوا إلى تلك المدرسة فقال طلبنا هذا الأمر العلم لغير الله، كان الهدف فقط أنه يقع ما يأكل ويقع ما يشرب ويقع في الناس، ولكن الله عز وجل شاء أمرا آخر وجعل من هذا الرجل من كبار عالما من كبار العلماء، وأخوه كذلك كان من كبار الدعاة إلى الله عز وجل. وهذا يصدق فيه حالنا أيها الإخوة الكرام، فكثير حضر إلى هاته البلدة من أجل الرزق، ولكن الله عز وجل شاء أن يلم شعة المسلمين وأن يجمع صفوفهم وأن يوحد كلمتهم، وإن كان ذلك أمرا نسبيا، توحيد الكلمة فيه وفيه، تختلف الكلمة هنا من مجموعة إلى أخرى أو داخل المجموعة الواحدة، ولكن رغم ذلك بقي هم بناء المساجد أو هم إيجاد أماكن للعبادة هما حاضرا وهما قائما إلى أن أقام الناس المساجد أو المصليات أو اكتروا المساجد فاستطاع الناس أن يجتمعوا على الصلاة على تلك على ذلك العماد الأساسي للدين. وفي ذلكم خير أيها الإخوة الكرام, ولولا ذلك ما كان حالنا كما نرى, ولولا ذلك لفقد أبناؤنا هويتهم ولفقدوا دينهم. فهذا الأمر الإيجابي. Donc lorsque on analyse un petit peu la situation des musulmans depuis leur arrivée ici en France en masse, je ne parle pas du début du XXe siècle, mais au moins depuis les années 60, on voit bien entendu qu'ils sont dans une amélioration continue, elle est progressive. À une certaine époque, les gens n'accomplissaient pas leurs prières, les gens ne jeûnaient pas, et au fur et à mesure, les gens ont commencé à s'attacher de plus en plus à leur religion, à construire les mosquées, les lieux de culte, à se réunir, même s'il y avait, s'il existe encore des divergences entre eux, mais toujours est-il que le but ultime, qui est celui de trouver des lieux de culte dans lesquels on peut se rassembler, c'est un but qui a été majoritairement atteint, même si dans votre cas, ce n'est pas peut-être le cas d'une manière définitive, mais ça viendra. Alhamdulillah, Madame Rijal Kainin, là, vous devez intercéler il a Moubtarakoum. Tant qu'il y a des hommes, vous arriverez, Inch'Allah, à votre projet et à votre but, puisque c'est une affaire qui dépend d'Allah Azza wa Jal. C'est une affaire qui ne dépend pas des hommes, c'est une affaire qui dépend d'Allah Azza wa Jal. لأن الله تبارك وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع dans des demeures que Allah dans Allah Azza wa Jalla a autorisé l'élévation. C'est Allah Azza wa Jalla qui autorise. Lorsqu'il autorise, ça viendra. Personne ne peut le stopper. Et donc à partir de là, ça c'est une bonne annonce que je vous annonce inchallah que Allah Azza wa Jalla va vous délivrer du rétrécissement de l'endroit où vous êtes et va vous faciliter inchallah la tâche pour avoir quelque chose qui est digne de vous et qui est digne de votre religion. Mais d'une manière générale, on peut dire que les musulmans ont beaucoup progressé, qu'il y a un retour à la religion, autant dans la deuxième génération, la première, deuxième génération, première catégorie, la deuxième génération, beaucoup se sont évadés de leur religion, beaucoup ne se sont pas trouvés dans leur religion, autant que dans les nouvelles générations, la troisième, la quatrième, il y a un vrai retour à la religion. Et ce retour-là, qui est massif, bien entendu, présente plusieurs avantages et présente aussi plusieurs inconvénients comme toute chose qui se fait d'une manière massive. Mais avec cet engouement pour la religion et avec l'expansion de la religion, avec ce grand retour à la religion, on a commencé à vivre certains drames et on a commencé à vivre certaines insécurités. Et je fais référence bien entendu à cette islamophobie grimpante qui commence à faire vraiment peur et qui doit nous faire vraiment peur. في استطلاع للرأي في الآونة الأخيرة قبل بضعة أشهر يعني تبين أن 73% من الفرنسيين يعتبرون أن الإسلام لا يتوافق مع ضوابط الدولة أو مع شعار الدولة شعارات الدولة بصفة عامة 73% يعني هنالك تخوف من الإسلام. هذه النسبة أيها الإخوة الكرام نسبة كبيرة جدا, يعني 73% المسلمين الآن يعني تقريبا 50 عام تلقاهم عايشين مع 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 الفرنسيين بصفة عامة, باش ما نقولش نصارى لأنهم مخلطين ما بقاش نصارى, عايشين مع الفرنسيين ومع ذلك يخافون منهم ويخافون من دينهم. هذا أمر جلل, يعني هذا الأمر يجب ألا يعني ألا نستشعر راحة البال ما دام هذا الأمر يعني محيطا بنا, لأن حسب يعني إلى اعتبرنا هذا الأمر هذا مستقبل أولادنا في خطر. إلى كان إحنا نشوف يوم بعد يوم الناس كان هنالك شعور فقط قلبي, وأصبح هذا الشعور الآن يوما بعد يوم ينقلب إلى كلام, أبقاش عندهم الإنفرانات التي تكلموا وينقلب إلى عدوان على المساجد, عدوان على المرأة خاصة لأنها هي المحجبة هي التي يظهر فيها سمة الإسلام, عدوان قانوني على المسلمين بمنعهم من ارتداء الحجاب إلى غير ذلك مما نسمعه هنا وهناك. إذن هذا الأمر أيها الإخوة الكرام يجب أن ندرسه. لما نشوفه بحال الأمور ما نجيبش نقول هذا الشيء لا يهمني أنا, مادام تنصلي وليداتي تمشي ويقراو وتندخل المنضى ديالي إذن ما عنديش مشكل. لا, المسلم هو عودنا الإسلام أننا نهتم بأولادنا وأننا نهتم بمستقبل الأجيال القادمة. الصحابة الكرام لما طردوا من مكة وهاجروا إلى المدينة ثم بعد ذلك حاربوا وجاهدوا وفتح الله عز وجل عليهم مكة مرة أخرى, كان يمكن لهم يجيوا ويجلسوا في مكة ويرتاحوا تمايا, يقول لك احنا رجعنا لبلادنا مكة
منتصرين ورجعنا إلى الحرم للصلاة الواحدة فيه تعديل 100,000 صلاة فيما سواه من غير المسجد النبوي من غير المسجد الأقصى. يعني الإنسان إذا كان الإنسان يبحث فقط عن الحسنات المفروض أنه يجلس في مكة. يعني يقول لك الحسنات هذه في مكة ما عمري ما لقاها في جهة أخرى. الصلاة الواحدة ب100,000 صلاة صافي بقات لي 20 عام في عمري ولا 30 عام في عمري نجلس في مكة وما نتحركش صافي ونأخذ في الحسنات. لو كان هذا هو تفكيرهم أيها الإخوة الكرام لما وصل الإسلام إلينا ولكنهم كانوا يبحثون عن راحة الأجيال القادمة. كانوا يعلمون أن الله عز وجل بتعثهم يحملون رسالة وأن من واجبهم تبليغ تلك الرسالة. ولذلك قال الله عز وجل في هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. على عهد سيدنا عمر بن الخطاب في إحدى حجاته رأى في الناس دعة رأى فيهم شيئا من الفتور فجمع الناس وخطب فيهم وقال لهم يا معشر المسلمين إن الله تبارك وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس فمن سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. اللي بغى يكون من هذه الأمة ويكون عضو من هذه الأمة خصو يؤدي الشرط. شنو هو الشرط؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن لم تأمروا بالمعروف ولن تنهوا عن المنكر آنذاك سوف ترجع القهقرة، آنذاك سوف تنقض ذعر الإسلام، آنذاك سوف تنهزمون. وهذا هو الذي حصل يعني في تاريخ المسلمين لمرات متعددة. كان كلما هنالك فتور في باب الدعوة إلى الله عز وجل كلما ضعفت شوكة أو كسرت شوكة المسلمين وضعفت قوة المسلمين ورجعوا القهقرة. وهذا هو الذي يجب أن لا يحصل فينا إن أردنا أن نبقى يعني قائمين، يجب أن لا نسقط في هذا الفخ أيها الإخوة الكرام. إلى درسنا هاد الناس دابا يقول لك أنهم تخافوا من الإسلام أو أنهم تعتبروا بأن الإسلام دين غير حضاري، دين لا يتماشى مع الحضارة الغربية، أو أن المسلمين يعني نوع من الناس الذين لا يمكن التعايش معهم، يجب أن نبحث عن الأسباب. شكون هما 73% ديال الناس؟ القضية خطيرة، خصنا نعرفوا شكون هما هاد الناس وعلاش وصلوا لهذه الحالة هذه وماذا يجب علينا كمسلمين في هذا المجتمع حتى نغير من هذا الواقع. المتفحص اللبيب إذا نظر إلى هذا الأمر يجد بأن هؤلاء الناس ينقسمون إلى أقسام عدة، ماشي كلهم حال بحال، ليسوا سواء. هذو اللي تقول لك سنخافوا من الإسلام ماشي كلهم حال بحال. كان واحد مجموعة فيهم هذو يكرهون الدين بصفة عامة وبصفة خاصة الإسلام، هذا لا يمكن أن تنزع من قلوبهم بغض الدين. ومثل هؤلاء كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا على عهد الصالحين، كانوا على عهد الأنبياء، وسيبقون في تاريخ يعني في تاريخ الإنسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هاد النوع هذا ما يمكنناش نغيرهم. وفيهم ناس اللي استغلوا هذه القضية ديال الإسلاموفوبيا، استغلوها فقط من أجل يعني البحث عن مناصب أو من أجل البحث عن يعني الأهداف دنيوية، رجال السياسة وإلى غير ذلك، باش يوصل خصودر في المسلمين، باش يجيب باش الناس يصوتوا عليه وباش يجر معظم الناس إليه. إذن هذه النوعية هما في حقيقة الأمر نوعية قلة، ما تقاوش دوك 73%، يستحيل أتلقى واحد عدد قليل من هذا، نسبة قليلة من هؤلاء. النوعية الثانية أيها الإخوة هما أناس جاهلوا الدين، يعني الحكمة تقول المرء عدو جهله، المرء عدو جهله. حاجة تكون جاهلها تتكرهها طبعك تيمجها يعني يكرهها مباشرة لأنه جاهلها، لما تعرفها ويستأنس بها أنا ذاك ما تبقاش الخوف منها. فهذا هو الذي يوجد عند معظم الفرنسيين، معظم الناس اللي تخافوا من الإسلام تتوجدهم يجهلون الكثير عن الإسلام. المعلومات التي يعني يأخذونها عن الإسلام يأخذونها فقط عبر وسائل الإعلام وما يقال في التلفاز وما يقال في الصحافة وإلى غير ذلك. بالنسبة لهم هذه هي صورة الإسلام الحقيقي، لما يسمع في كل مرة بأن هؤلاء تيرورست، بأن هذا ناض واحد مسلم قتل الآخرين، هذا الأولاد المسلمين في الحباسة وصلوا 60% ديال المسجونين في السجون الفرنسية كلهم مسلمين، لما تسمع هذا الكلام اليوم وغدا واليوم وغدا واليوم وغدا صافي تقتنعوا بداك الشيء. وخاصة أننا في مرحلة صعبة اللي فيها واحد أزمة اقتصادية وفيها يعني قلة العمل فيها الفقر. فالناس إذا تيوضعوا دائما يعني السبب في يعني في سميته في الإنسان اللي جاء من الخارج، الإنسان يعني الغريب وليس في القارب. وهؤلاء هم معظمهم أيها الإخوة الكرام من هذا الصنف. Il y a eu un sondage il y a quelques mois qui a déterminé que 73% des Français considèrent que l'islam est une religion qui ne s'adapte pas au contexte européen, ou une religion sous-développée, ou une religion sous-civilisée, une religion qui ne peut pas coïncider avec les principes fondamentaux de la République. Et ce chiffre-là, chers frères, doit normalement nous interpeller. Quelqu'un qui entend ce chiffre-là et le soir même il dort avec sur ses deux oreilles, c'est quelqu'un qui n'a aucun sentiment, c'est quelqu'un qui n'a pas une vraie foi. Normalement, lorsqu'on entend que l'islam est en danger de cette manière-là, il faut tout de suite s'arrêter et se poser des questions. Et se dire, que dois-je faire en tant que musulman, en tant qu'un membre de cette communauté musulmane, que dois-je faire pour changer cette situation? On ne peut pas accepter que cette situation perdure ou qu'elle progresse. Normalement, nous, c'est-à-dire, quel que soit notre degré d'engagement, de responsabilité, quel que soit notre âge, quel que soit notre sexe, qu'on soit des hommes ou des femmes, nous devons être interpellés par ces chiffres-là et nous devons se poser des questions. Pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation dramatique? D'abord, on doit chercher les causes et ensuite, on doit chercher les solutions et à travers la place que nous devons occuper dans la société en tant que musulmans et en tant que citoyens lambda. Alors, ces 73%, on ne peut pas généraliser et dire qu'ils appartiennent à une seule catégorie. Non, dans ces 73%, il y a deux catégories. Il y a une catégorie de personnes qui, d'une manière instinctive, ont une haine contre la religion, d'une manière générale, et plus spécialement contre la religion musulmane. Soit parce qu'ils appartiennent à une autre religion, soit parce qu'ils ne croient pas en l'existence d'Allah Azza wa Jal, soit parce qu'ils voient que cette religion, quelque part, va freiner certaines de leurs aspirations terrestres. Et donc, à partir de là, ils combattent la religion et ils mettent en place des stratagèmes pour l'affaiblir, pour la combattre d'une manière publique et pour recruter le maximum de personnes et les convaincre du soi-disant bien fondé de leur théorie. Ça, c'est une catégorie. Mais cette catégorie-là, c'est-à-dire le pourcentage de ce genre de personnes n'est pas énorme. Il ne peut pas atteindre les 73% desquels on parle. Ça ne peut être qu'un pourcentage minime. Mais en revanche, la plus grande catégorie de personnes qui sont islamophobes et qui ont peur de la religion musulmane, ce sont des personnes qui ignorent énormément sur cette religion. Voilà d'où vient le problème. C'est que ce sont des gens qui, lorsqu'ils veulent connaître la religion musulmane ou s'informer sur la religion musulmane, ils recourent uniquement et exclusivement aux sources médiatiques. Et nous savons très bien qu'au jour d'aujourd'hui, les médias ne sont pas du côté des musulmans. Et nous savons très bien que l'image de l'islam dans les médias n'est pas, pour le moins, c'est-à-dire le moins qu'on puisse dire, n'est pas une image positive. C'est une image vraiment négative. Et ceci répond à un stratagème de la première catégorie, justement. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de gens, le français lambda, le français qui ne connaît pas les musulmans, il le connaît seulement à travers les médias, à travers la fenêtre et le prisme des médias, a eu une idée négative sur cette religion et sur ceux qui appartiennent à cette religion. Combien même tu trouves cette personne qui travaille avec un musulman, il connaît des musulmans, il fréquente des musulmans, il va te dire Abdullah, Mohammed, ainsi de suite, il est gentil. Mais cette religion, ça ne va pas. Là, le musulman lui-même, il te dit, j'ai pas de problème avec lui, mais la religion musulmane me pose un problème. Donc, et c'est ça, sur cette catégorie justement que tout le monde travaille. Que ce soit les vrais islamophobes, que ça soit les musulmans eux-mêmes. Ils sont censés travailler sur cette catégorie-là. Parce que c'est cette catégorie-là qui peut avoir la langue facile, d'accord, et parler négativement du musulman, ou bien passer à l'acte. Parce que ceux qui ont une haine instinctive contre l'islam, une haine viscérale de l'islam, ce n'est pas forcément eux qui passent à l'acte. Ce n'est pas eux qui vont taguer les mosquées, ce n'est pas eux qui vont enlever le voile à la musulmane qui passe par la rue. C'est en général des gens qui ont été endoctrinés, des gens qui n'ont pas trouvé de travail, qui ont du chômage, qui pensent que la source de tous les problèmes qui les guettent ici et là, ce sont les musulmans. C'est l'étranger. Et comme on a fait un amalgame entre musulmans, terroristes, étrangers, ainsi de suite, regardez rien que dernièrement, la personne qui a tiré sur un journaliste parce qu'il avait un faciès européen, tout le monde, lorsqu'on a vu sa photo, on a dit, Alhamdoulilah, c'est pas un musulman. Dès qu'on a entendu cette affaire, on a dit, j'espère que ce ne soit pas un musulman. Lorsqu'on a vu la photo, on a été rassuré. On a dit, c'est pas un musulman. C'est après coup, lorsqu'ils les ont cité son prénom, qu'on s'est rendu compte qu'il est d'origine musulmane, même s'il est de l'extrême gauche. Mais en tout état de cause, si vous voyez les informations, ils n'ont jamais parlé d'un terroriste qui tire sur les gens. Non, ils ont parlé d'un fou tireur. Un tireur fou. Voilà. Au départ, c'était ça. Ils n'ont pas mentionné le mot terroriste. Même lorsqu'il y a des attentats en Corse, ou bien dans le Pays Basque, qu'est-ce qu'on parle des indépendantistes corses ou des indépendantistes basques. On ne parle pas de terroristes, alors que c'est le terrorisme. Et ça, faites attention à ce genre de choses. Mais dès qu'on dit terrorisme, forcément, vous allez trouver qu'il est lié à un musulman ou bien à quelqu'un qui appartient à l'islam. Tout ça, c'est pour vous dire que il y a une volonté justement de diaboliser la religion musulmane et de diaboliser les musulmans, et beaucoup de Français tombent dans le piège. Maintenant, venons-en aux causes. Pourquoi sommes-nous arrivés à cet état-là? Et Allah Azza wa Jal nous a appris dans le Coran que lorsqu'on voit qu'on passe par un drame, il ne faut jamais mettre la responsabilité sur les autres. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِي أَنفُسِكُمْ. Parce que vous avez été touché par un mal par lequel vous avez touché deux fois les autres autrefois, vous vous êtes dit d'où vient ce mal-là? Il vient de vous-même. Donc c'est pour cela qu'il faut commencer déjà par nous-mêmes. Au lieu de jeter l'anathème sur les autres et dire ils ne comprennent pas, ce sont des ignorants, ce sont des racistes, ce sont ceci, ce sont cela, revenons-en à nous-mêmes. Quelle est la cause qui est inhérente à nous-mêmes, qui est inhérente à la communauté musulmane, au comportement du musulman? Nous allons voir que nous sommes responsables de ce qui nous arrive en grande partie, et il y a d'autres personnes, nos ennemis, qui sont responsables. Cela, de toute façon, tu ne peux pas les arrêter. Mais venons-en maintenant à notre responsabilité. La communauté musulmane qui est responsable de l'islamophobie se divise en trois catégories. La première catégorie, ce sont des musulmans qui ont l'identité musulmane, mais au niveau de leur pratique, ils n'ont absolument rien à voir avec l'islam. C'est ce qu'on appelle les laxistes. Il s'annonce musulman, il se dit musulman, il se dit croyant, et parfois même il défend l'islam. Moi, ma religion, si tu touches le prophète, là tu touches Dieu, il est prêt à se battre. Alors que lui-même, il est dans un égarement manifeste. Et forcément, ces gens-là, et notamment parmi les jeunes, lorsque la communauté française, d'une manière générale, voit des jeunes comme ça, des délinquants, des jeunes qui squattent dans les entrées des bâtiments, des jeunes qui insultent les vieilles dames, des jeunes qui ne sont pas bien dans leurs études, des jeunes qui dealent, des gens qui remplissent les prisons. Il faut dire 60% maintenant des prisonniers en France sont des musulmans. C'est un chiffre qui fait très peur. J'ai visité des prisons et je peux vous dire qu'on se sent très 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 mal lorsqu'on voit des jeunes qui sont en fleur d'âge, de 20 ans, entre 20 ans et 30 ans, et ils passent la meilleure période de leur vie entre quatre murs. Et pour des délits, des petits délits, c'est pas pour la grande délinquance ou les grands crimes, c'est pour des petits délits, pour gagner un petit peu l'argent de poche, parce qu'il a violé une fille, même si c'est un grand crime ça, mais c'est seulement pour vous dire, pour des bêtises normalement, où normalement le musulman qui se respecte n'a pas à toucher ces bêtises-là. Donc là c'est une catégorie qu'on exploite au niveau des médias pour faire peur à nos concitoyens, pour leur dire, ben voilà, c'est ça les musulmans, alors qu'ils n'ont absolument rien à voir avec l'islam. Ce sont malgré eux des ambassadeurs, des faux ambassadeurs de l'islam. Ce sont des faux représentants de l'islam et des faux ambassadeurs de l'islam, et ils représentent ils ont une grande part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Une deuxième catégorie des musulmans, c'est ceux qui tombent dans l'extrémisme. Ce sont nos frères et nos sœurs, et il faut le dire. Ce sont des gens qui, à une certaine période, ne trouvaient pas d'identité. Et ce sont des gens à qui qu'on n'a pas alimenté comme il le faut avec la science islamique, avec la connaissance islamique. On ne les a pas alimentés depuis leur enfance. Ils erraient dans les rues, ils ne connaissaient rien sur l'islam. Et du jour au lendemain, pour X raisons, Allah Azza wa Jalla les connaît, ils sont diverses, pour X raisons, ils se sont repentis. Ils sont revenus à l'islam. Et ils ont aimé l'islam. Leur intention est bonne. le bien fondé de leur intention, il est bon. Ils veulent l'islam, ils veulent embrasser l'islam, ils veulent pratiquer l'islam. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas canalisé leurs forces bien comme il le faut, avec le vrai savoir, avec une bonne connaissance, avec des imams qui les orientent bien comme il le faut, qui les alimentent bien comme il le faut, d'une manière progressive. Et donc forcément là, ils ont commencé, surtout avec maintenant Internet, à chercher l'identité islamique qui correspond à leur profil psychologique ou à leur profil comportemental, d'accord, ou à leur tempérament. Et forcément, sur Internet, comme vous savez, il y a un peu de tout. Donc, ils trouvent forcément des thèses extrémistes qui voient l'islam d'une manière extrême, l'islam d'une manière très littéraliste, indépendante du contexte. Parfois, une vision qui peut être régressiste, disons-le. Et à partir de là, ils adoptent cette thèse-là. Pourquoi ? Parce que c'est cette thèse-là qui fait de du jour au lendemain quelqu'un qui a de l'importance. Parce que du jour au lendemain, il entre à la mosquée, il commence à critiquer l'imam lui-même. Déjà, l'imam, il dit, l'imam ne connaît rien de la religion. À part parce qu'il a hier lu qu'il fallait se tenir comme ça dans la prière, ou qu'il fallait s'habiller comme ça en tant que musulman, ou qu'il fallait lire comme ça le Coran, ou qu'il fallait citer tel hadith comme ça. Donc, automatiquement, il pense que c'est la vérité. Et dès qu'il voit l'imam qui adopte une autre vision ou un autre profil, forcément, il l'attaque, il commence à attaquer les musulmans. Alors qu'il est le dernier venant à l'islam, il se positionne en tant que juge contre tous les autres musulmans qui l'ont dépassé dans la foi, qui l'ont dépassé dans la pratique et qui l'ont parfois dépassé dans le savoir. Donc ces gens-là sont malheureusement des proies et on doit les considérer comme des victimes. On ne doit pas les considérer comme des ennemis. Il faut les considérer comme des victimes parce qu'ils sont dans un contexte difficile. Parce qu'ils sont rejetés par la société, ils ont cherché une bouée de sauvetage et ils l'ont trouvée dans l'islam extrémiste. Et malheureusement, ces gens-là, ceux qui veulent justement combattre l'islam et l'abattre, ont trouvé leur salut justement dans la présence de ces gens-là. Et c'est pour cela qu'on l'exploite. Ils ont commencé à exploiter leur image pour dire aux Français, de manière générale, ben c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Donc vous voyez, c'est soit ça, c'est des tueurs qui sont dans la prison, soit c'est des gens qui sont communautaristes, qui se replient, ils ont un repli identitaire. Vous voyez, le problème, ils se replient même contre leur propre communauté. Nous, on ne le considère pas comme un repli communautaire, parce que Rouma, ils se replient même contre nous. Dans notre pratique, dans la mosquée, ils prient à côté de toi, et ils ne te saluent même pas. Il ne te salue même pas. Il considère que tu es un ennemi potentiel. Alors que tu pries avec Dieu, tu vous adressez au même Dieu, vous lisez le même Coran, vous suivez le même imam, vous entendez le même Jumu'ah, et lui, il considère que tu n'es pas un bon musulman. Tu es un hérétique. Donc déjà, ils ont un problème avec leur communauté. C'est tout à fait normal qu'ils aient des problèmes avec la communauté nationale. Donc là, c'est une catégorie aussi qui maintenant est en train d'être exploitée. C'est pour cela que certains encouragent la présence de ces personnes-là. Et encourage la présence de ce mouvement-là et de cette idéologie-là parce que ça leur permet de trouver une excuse et de justifier la haine profonde qu'ils ont contre l'islam. Pour leur dire, c'est ça le vrai islam. C'est pas ce que vous montrez les modérés, ainsi de suite. Pour ça, c'est la deuxième catégorie qui reste quand même responsable de ce qui nous arrive. Et quoi, c'est un de François, c'est vraiment chien le goût. C'est un de Il est soutenu à l'arbre, La troisième catégorie qui est responsable, c'est la catégorie qui se dit une catégorie compréhensive de ce qu'est l'islam, qui connaît ce que c'est que l'islam, qui connaît la modération, qui connaît la pratique. Mais bien qu'ils ont cette connaissance-là, et bien qu'ils ont ce profil-là, ils ne font rien pour changer la situation. C'est la grande catégorie chez nous. Ça, il faut le savoir. Et nous, on est là, on analyse, on critique. Et on critique nos propres musulmans, les responsables. On rejette la responsabilité sur l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les responsables de la mosquée? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les représentants des musulmans en France? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Et ici, c'était comme ça qu'on rejetait toujours la responsabilité sur les autres. On ne va pas s'en sortir. Parce qu'avec le responsable, le représentant, il essaie de faire, s'il est de bonne intention, bien entendu, il essaie de faire ce qu'il peut. Mais toi, lorsque tu le critiques, c'est pas comme ça que tu vas l'aider. Tu es en train de l'affaiblir et de t'affaiblir. Et donc, on reste des spectateurs. On reste des spectateurs. On voit la situation. On voit qu'on est en train de couler. Et personne ne parle. On se critique les uns les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auraient dû faire. Il faut changer tel président. Il n'a rien fait. mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il faut dire que chacun de nous doit se sentir responsable de cette réalité. Toi, combien de tes collègues de travail, est-ce que tu as changé leur opinion sur l'islam? Est-ce que tu as fait quelque chose pour changer l'opinion de l'islam de tes voisins? Tu côtoies des voisins pendant une vingtaine d'années, tu le vois dans le palier, bonjour, bonjour, il pleut, il fait très chaud, tu parles que de ça. Est-ce que tu as essayé de changer sa mentalité? Autant les anciens et les jeunes qui critiquent les anciens. C'est ça le problème dans lequel nous vivons. Les jeunes qui disent, ouais, les anciens, ils ont rien fait. Les anciens, ils ont fait plus que ce que les jeunes sont en train de faire aujourd'hui. Les anciens, par rapport au savoir qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné, qui était un savoir limité, ils ont fait énormément. Ils ont construit les mosquées. Nous sommes au jour d'aujourd'hui à 2200 mosquées en France. Et ça, c'est pas une tâche facile. Ceux qui ont construit ces mosquées-là, ce sont les anciens. Et il ne faut pas... Il ne faut pas sous-estimer ce que les gens ont fait. L'islam nous a appris de ne jamais insulter nos ancêtres ou ceux qui nous ont dépassés. De dire, barakallahu fikoum pour ce que vous avez fait. Jazakumullah khairan pour ce que vous avez fait. Et nous sommes avec vous. Et nous devons construire, vous et nous. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayti wa... وإسماعيل شفت في الآية ما قص الله وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد لا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت عقل وإسماعيل باش يبين بأن هنالك ترابط بين الأجيال il y a une liaison entre les générations. Ibrahim est en train de lever les piliers de le bait du temple de la Kaaba ainsi que Ismaïl pour dire qu'il y a une continuité entre les deux générations. Et donc normalement les jeunes devraient voir cet esprit là de manifester du respect vis-à-vis de l'ancienne génération, de reconnaître le travail énorme qu'ils ont fait parce qu'ils ne maîtrisaient pas forcément le français. Ils sont venus du bled vers un pays qui leur est étranger. Donc imagine, tu te jettes dans un pays dont tu ne connais pas la culture, tu ne connais pas la langue, tu ne connais pas ton avenir. Et ça, c'est une preuve de courage grâce à Allah Azza wa Jalla, parce que eux aussi, et si tu on aurait mis en place une stratégie pour faire ce qu'on a fait aujourd'hui, on n'aurait jamais pensé à faire ce qu'on a fait. Mais parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a orientés par sa grâce vers ce bien-là, et nous, on n'a été que des pions dans l'échiquier du destin. Mais c'est Allah Azza wa Jalla qui décide. Et c'est un bienfait pour celui qui a participé dans ce courant-là pour aider l'islam. Alhamdulillah, il recevra sa récompense auprès de Allah Azza wa Jalla. Donc la première chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait cette critique intergénérationnelle et de dire qu'est-ce que l'autre a fait, qu'est-ce qu'un tel a fait, moi je connais mieux que toi, moi. Il faut qu'il y ait une certaine humilité. Tous les musulmans doivent avoir une certaine humilité et un sens de responsabilité. Et de dire, l'autre n'a pas fait, je l'excuse. Peut-être pour son niveau, peut-être pour telle raison, telle autre. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'on ne doit pas rester dans cette situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par le Bukhari, « مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ » L'exemple de celui qui respecte le cadre de Allah Azza wa Jalla, celui qui tombe dans l'interdit, c'est l'exemple d'un groupe de personnes qui se sont rassemblées pour avoir un bateau, avoir un navire. كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلَ مِنْهَا وَبَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا. Donc il y avait une partie qui était au rez-de-chaussée de ce navire-là et une deuxième partie qui était à l'étage. فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلَ إذا أرادوا أن يستقوا رجعوا إلى من كان أعلاهم. Donc ceux qui étaient au rez-de-chaussée, lorsqu'ils voulaient boire, ils devaient revenir à ceux qui étaient à l'étage. C'est eux qui avaient l'eau potable. Parce que là, le reste, c'est que la mer, c'est l'océan, c'est une eau qui n'est pas potable, une eau salée. Donc pour boire, c'est eux qui avaient la réserve d'eau. Et chaque fois qu'ils voulaient boire, ceux qui étaient au rez-de-chaussée, ils devaient revenir à ceux qui étaient à l'étage. فقال بعضهم لو خرقنا في نصيبنا فلا نحتاج الى من فوقنا. Ceux qui étaient au rez-de-chaussée, ils ont dit, mais ça aurait été bien de mettre une brèche là où nous sommes, et comme ça on a accès directement à l'eau de l'océan, et comme ça on ne sera pas dérangé d'aller voir ceux qui sont au-dessus. فلو تركوهم, si ceux qui sont à l'étage laissaient faire ceux qui étaient au rez-de-chaussée, halakou jami'an. S'ils les laissent faire, les autres ils vont mettre une brèche. Si ceux qui sont à l'étage disent, ça ne m'intéresse pas, moi en tout cas à l'étage, je suis en sécurité. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Moi, je m'occupe de mon étage, il est bien, j'ai de l'eau, j'ai de quoi boire, j'ai de quoi manger. Je n'ai pas besoin de ceux qui sont en dessous de moi. Il a dit, si le prophète a dit, si ceux qui sont à l'étage laissent les autres faire, ils vont couler tous. ولو منعوهم لنجوا ونجوا جميعا. Et s'ils les empêchent de faire, ils vont tous être sauvés. Donc c'est notre cas. Entre ceux qui peut-être n'ont pas un sens de responsabilité énorme, et ceux qui ont, je n'allais pas dire un sens de responsabilité, mais ceux qui pensent avoir un sens de responsabilité, ou ceux qui pensent être assez intellectuels pour comprendre la gravité du contexte et pour s'estimer capable de changer quelque chose. Si on se laisse faire les uns les autres, nous allons tous couler. Alors, j'ai aucun intérêt, en tant que quelqu'un qui peut avoir un certain éveil intellectuel, de consacrer toute ma force à mes enfants. De dire, voilà, Anna, هاد المسلمين هادو تيديروا لنا المشاكل وديما الصداع بيناتهم وكذا غادي نمشي للدار ديالي ونقبضوا وليداتي ونبدا نعلمهم القران ونعلمهم الاسلام ونتلفوا وليداتي ما بينيش وبين الاخرين ياك غادي تربوا وليداتي فعلا غادي تربوا وغادي يكبروا وانا حيت غيكبر بمن غيتزوج حتى كان الشعب كله ضايع ولادهم مع من غيتصاحبوا ولا كان الشعب كله ضايع الناس الاخرين كلهم ضايعين فين غادي يمشي يقرا القران الا ما كان الناس ما بناو لا جامع ولا شيء فين غيتعلم العربيه فين غيدير فين غيدير واش غيبقى ديال واحد وغيبقى عايش بوحدو في هذه البلاد اذا خصها عرفوا بان المسؤوليه ما تتعلقش بيا بوحدي ولا بوليداتي بوحدي لا ولات المسؤوليه تتعداني او نتيجه مسؤوليتي تتعدى الى غير اسرتي وهذا هو الهم اللي كان عند المسلمين ايها الاخوه الكرام في الاول هذا الفرق بيننا وبين المسلمين الاوائل كان عندهم هم الدعوه وهم نشر الدين وهم بناء القواعد للاجيال القادمه انظروا الى ربعي بن عامر رضي الله عنه لما تلاقى برستم سيدنا سعد بن ابي وقاص رستم قال له بعث لي خصنا نجيو نتفاوضوا بيناتنا رستم هو الكبير ديال العسكر ديال الفرس قالوا خصنا نتفاوضوا بيناتنا سيدنا سعد بن ابي وقاص كان مريضا كانت فيه البواسير كان مريضا فبعث له واحدا من الجنود ربعي بن عامر ما معروفش هذا كان عبد قبل وسلم وفك سراحه وصفته كان عنده داير لينات عرفوا لينات ضافر الشعر ديالو ومشى بواحد العود ديالو مشى بالحصان ديالو ما فيه لا سرج ولا شيء وغادي بواحد الحربه نتاعو ومشى لعند رستم فوضعوا له وضعوا السرابقه ديالو الخيم ديالهم وضعوا الزرابي في الارض وكذا ونزل هو من 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 العود نتاعو ووضع زوج حربته في الارض ومشى فوق الزرابي يخرقها بحربته غادي بالحربه ديالو الصوره هذا المنظر هذا راجل غادي بحال نقولوا حنا عروبي مسكين ما فاهم والو اعرابي غادي بالحربه ديالو قاص يقطع الزرابي ديالو وداخل الشعر ديالو يعني وداخل عند رستم رستم جالس في واحد العرش وكذا وجالسين دايرين به الماكله والشراب والفواكه ودخل بقى يشوف فيه رستم يعني عندنا يعني حنايا يعني قرون وحنايا يعني من السمع والبصر حنا حضاره قدنا قداش يرهبونا الناس في كل مكان وانتشرنا في العالم كله وهاد البشر يلاه عاد بانوا جاو دابا هاجمين علينا فتعجب هذا السيد هذا دخل وتنتظر دخل عنده شي واحد مظهره يشير الى الانتماء الى حضاره رفيعه غادي يدخل شي راجل لابس شي لباس وشي كذا وشي هيئه ودخل عنده راجل مسكين حويجاته من هما هادو يعني فبقى يشوف فيه قال له من انتم يعني ديك من انتم يعني بغيت غير نفهم السر ديالكم منين جاي القوه ديالكم وصلتوا لهاد الدرجه باش تحاربوا الفرس من انتم شوفوا العزه والقوه ديال جندي من الجنود واحد عادي قال له نحن قوم ابتعثنا الله شوف العقليه ديال المسلم كي كانت حنا بعثنا الله ما جايش انا هكا اذا عندي انا ميسيون عندي واحد المهمه عندي واحد الرساله خصني نوديها نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعه الاخره ومن جور الاديان الى عداله الاسلام كلام هذا تكتب بالذهب احنا قوم بعثنا الله يعني عندنا مهمه احنا بعثنا الله عرفتي انا بعثني الله واش اللي بعثه الله عاد بقى يتكاسل ها يبقى يتفلى ويضيع الوقت انا بعثني الله اذا عندي مهمه انا في الدنيا احنا قوم بعثنا الله لنخرج العباد العباد كلهم نخرجهم من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن ضيق الدنيا هذا يعني عقلهم في الدنيا وحنا عارفين حنا دابا الناس كل داير في الدنيا حنا كلشي داير في الدنيا لا المسلم ولا غير المسلم وشكون اللي فينا عنده هذا الهم ديال ان خصني نخرج الناس من الهم من ضيق الدنيا الى ساعه الاخره ومن جور الاديان الظلم ديال الاديان الى عداله الاسلام يعني رستم لما قلت معاه عرض ان هاد الناس راه ما يمكنش يوقفهم واقترح على كبار عسكري كبار جيشي ان يسلموا اقترح عليهم هما ما بغاوش داكشي باش دخل في الحرب اما ما يقال في التاريخ يعني المؤرخون بانه اراد ان يجد صلحا بين مع المسلم مع المسلمين وان يسلموا، لان تيقول لك الا سلمنا غادي ننتصروا حتى حنا ونقولوا اللي معاهم قويين، هاد الناس ما تيقلبوش على الدنيا. ولكن العسكر ديالهم قد ديك الرفعه، حنا حنا الروس، حنا يعني الفرس، حنا غنغلبوهم، حنا كذا حنا كذا، ودخلوا في الحرب وخسروا كما تعلمون. ولكن احنا بغينا الشاهد هنا هي كلام ربعي بن عامر رضي الله عنه، يعني الناس كيفاش كان عنده الهم ديال الدعوه الى الله عز وجل. ما تيقلبش على راحه البال ديال حنا دابا الواحد فينا حتى يدير 60 عام تيقب التقاعد هنا في البلاد شي يدير تيقول لكم غنبدا ندير 6 شهور ليات ونجي واحد الشهير هنايا ونمشي. واش تدير الحال في البلاد؟ وتمشي عندي واحد المخيلات ولا واحد الزويتينات تما درتهم وتنتهلاو فيهم شويه ونمشيو نبدلو. هو حنا تنفهموا هادو والدينا اللي تيديروا هادشي تنفهموهم، وتيرجعوا لذاك الطفوله ديالهم مساكن عاشوا هنا في القهره وبعاد على البلاد وفي البرد والثلج وكذا وتيرجع لذاك الشيء. ولكن الحاجه راه دابا حنا محتاجين لك، حتى هنا محتاجين لك، انا دابا ولا عندك الوقت وعندك انت الحكمه وعندك التجربه، حنا احوج ما نكون اليك. انت دابا تهرب علينا، خصنا هاد الوليدات هادو يوقف معاه يشد بالاجر ديالهم يساندهم ويوقف معاهم ويدعمهم. هذا هو دابا التركه ديالك اللي غتخلي، اما داك الخيمه ولا داك الدار اللي بنيتي والدوزيام ايطاج ومكمل تروازيام ايطاج، راه حيت غادي يتوفاك الله عز وجل. الولد راه بالتليفون يضرب لعمو يقول له بيع داكشي باش ما جاب الله وصيفط لي الفلوس. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ هادشي راه تنعيشو. داكشي باش يقول العلماء كلما كثر مالك كلما كثرت علاقة، كلما كثر ندمك عند الموت وحسرتك عند الموت. هذا تقولوا فينا نمشيو نخلي هذا الشيء، كل ما بنيت وكل ما تقال غنمشيو نخلي هذا الشيء. ولكن اجدادنا ايها الاخوه الكرام ما كانش عندهم هذا الشيء، ولما بداوا يفكروا في هذا الشيء ضاع الاسلام. لذلك في الاندلس جلسوا فيها عشرات القرون ولكن كانوا تيقدروا يهبطوا، تيجيب الله شيء بحال يوسف المتشافي رحمه الله تيجيو ينصروا مع ثاني شويه يعطيهم واحد دعامه جديده باش يمشي واحد 100 عام ولا شي حاجه. اما يرجعوا الزرياب والغناء والجيتار وكذا وهذه هما هابطين، حتى خرجوا جراو عليهم عشرات القرون والمسلمين جالسين في الاندلس ايها الاخوه الكرام، ماشي جالسين تيخدموا تيمشيو للوزينات ويديروا، لا هما اللي تيحكموا البلاد، هما اللي تيسيروا البلاد عشرات القرون. حنا شحال حنا هنايا في هذه البلاد؟ مازال ما كملنا القرن، كملنا القرن مازال ما كملنا. شكون دابا اللي يقدر فينا دابا فيكم يقول لك حنا ضامنين غنبقاو هنا دائما ولادنا غيبقاو هنا؟ لا راه هادشي راه خطير ايها الاخوه الكرام. راه باش نقول لكم شنو يعني كونوا واعيين، هما تما بناو القصوره صافي قالوا راه حنا قطعنا الولاد وشفوا رجلينا، بناو القصوره وبناو المساجد وبناو كذا. راه الاسلام الاندلس مسلمه ما فيها شك. ولكن لما الدعوه بالدنيا ونسوا الله عز وجل ونسوا الدعوه الى الله ونشر الاسلام وبناء المستقبل الاجيال القادمه، لان الله عز وجل وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. هذه سنه الله عز وجل، ان تنصروا الله ينصركم. هذا هو الشرط، خصكم انتم تنصروا الله. لما بقيتوش تنصروا الله اش غينصركم؟ باش واش غينصركم؟ ان تنصروا الله ينصركم. فاحنا وليداتنا وشنو ولاو المسلمين اي الموريس، كثير تشوف القصص ديال الموريس، يعني كانوا العيالات مساكن في البيوت ديالهم يعلموا وليداتهم العربيه وداك الشيء، وهذه جاوا من عتل عيد قالوا عندكم 3 سنين ما بقاوش يتكلموا العربيه ولادكم وتنصروا. والمسلمين بقوا مخبعين يعني الاسلام هو مخبعينهم الاجيال، الاجيال هو مخبعين السميات بانهم راه مسلمين الموريس، وقتلوهم وشردوهم وداك الشيء اللي داروا لهم يعني لا يتصور. اللي تيقول لك حنا تيروريست الاسلام تيروري، سيروا تشوفوا النصرانيه شنو دارت في المسلمين وشنو دارت في اليهود، سيروا تشوفوا تاريخ الاندلس شنو داروا فيهم، شنو داروا في الموريس وشنو داروا في اليهود. حنا ما عمرنا ما درنا داك الشيء. حنا الحروب الصليبيه دخلوا لفلسطين القدس قتلوا في يوم واحد 200,000 مسلم، 200,000 مسلم، حتى ولات القدس انهار ديال الدمايات. 200,000 واحد اللي قتلوه في نهار واحد لما دخلوا الاندلس القدس. ولما جاء صلاح الدين الايوبي طلقهم طلق الصلاح ديالهم ما قتلوا فيهم ولا واحد. لما جاوا قالوا حنا تنتنازلوا قالوا ما هز حويجاتكم وسيروا الله يعاونكم. راه دار واحد الفيلم هاد اليومات على تيبينو صلاح الدين الايوبي تعترفوا به ليومنا هذا. علاش؟ لانه كان يتحرك بالعزه ديال الاسلام. انا ما جايش باش ننتقم منكم، انا جاي باش ننصر الدين ديالي. لما نصرت الدين ديالي السلام عليكم راه حنا خوت. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. يعني بغيت يقول لك الناس اللي ما حاربكش في الدين، حاربك معنى الكلمه باغي يقتلوك الدين ديالك يحيدوه باغي يدير لك وان يخرجك من دارك، هذاك ربي تيقول لك انا ما تنهاكمش باش تبر ليهم، ماشي تبر ليهم وتقسط تكون عادل معاهم ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم عن من؟ عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. شنو قال؟ ما قالش أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لا، قال أن تولوهم. يعني القسط خصكم تبقاو قاسطين معاهم، تبقاو عادلين، غير ما يوليوش الأولياء ديالكم. هادو اللي تقتلوكم ويشردوكم ويخرجوكم من دياركم ما يوليوش الأولياء ديالكم، ومن يتولاهم فأولئك هم الظالمون. شفت العدالة ديال الإسلام. وهكذا أيها الإخوة الكرام كان الإسلام. Donc, chers frères, je disais que la première chose à faire, c'est de ne plus avoir ce sens d'irresponsabilité. Il faut avoir une modestie, ça c'est la première chose. Autrement dit, il faut qu'on s'estime les uns les autres. Et ne jamais jeter l'anathème sur les autres et dire le fautif c'est un tel alors que moi je sais faire. Ça c'est la première chose. De dire nous sommes dans le même bateau et si jamais il y a un drame, ça va nous englober tous. Et s'il y a un naufrage, nous sommes tous concernés par ce naufrage. Ça, c'est la première chose. Ne pas nous détester les uns les autres. Et troisième chose, c'est être actif. Et cette activité, je vais en parler tout à l'heure. Mais ce que je disais, c'est que le sens de responsabilité des musulmans, on le voit depuis l'aube de l'islam. J'ai donné l'exemple de Rib'i ibn Amir, lorsqu'il y avait un combat entre les musulmans et les Perses. Rostum, qui était le chef de l'armée perse, avait demandé à Sa'd ibn Abi Waqqas de négocier. Et Saad était malade et il a envoyé un simple soldat pour négocier avec Rostam. Parce qu'il faisait confiance à son armée. Le simple soldat savait ce pourquoi il combattait. Il connaissait quelle était sa mission. Et lorsqu'il alla voir Rostam, alors qu'il était mal habillé, parce que c'était un simple homme indigent, donc il était habillé d'une manière très modeste, avec ses tresses au niveau de ses cheveux. Et il alla rencontrer justement Rostam, et Rostam, en voyant son état, lui il s'attendait, c'est-à-dire ce peuple-là qui est en train de nous combattre, et de défier les Romains, les Byzantins, et de défier les Perses, ça doit être une grande civilisation, et ceci va apparaître dans déjà l'état de la personne qui vient négocier avec moi. Et lorsqu'il a vu Rostam dans cet état, lorsqu'il a vu Rib'i ibn Amr dans cet état-là, il a commencé à le voir, il a dit « Qui êtes-vous ? » Vous êtes des humains ou vous êtes quoi? Qui êtes-vous? Et regardez cette réponse. Il lui a dit, nous sommes un peuple que Dieu a envoyé. Un peuple qui a été envoyé par Dieu afin de sortir les gens de l'adoration des gens à l'adoration du Seigneur des gens. Et du rétrécissement de la vie terrestre vers la grandeur de la vie de l'au-delà. Et de l'injustice des religions vers la justice de l'islam. Et donc il a résumé sa mission. Il est missionnaire, il a une mission, mais de la part de qui? De la part d'Allah Azzawajal. Autrement dit, lorsque tu es missionné par Dieu, donc tu sais que tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux pas te reposer. C'est Dieu qui t'a donné une mission, tu dois revenir vers lui pour lui rendre compte de ce que tu as fait de ta mission et dans ta mission. Et c'est pour cela que les musulmans étaient forts. Et c'était des gens qui construisaient l'avenir des nouvelles générations. Je disais tout à l'heure que si les musulmans cherchaient leur confort, lorsqu'ils ont conquis la Mecque, ils auraient pu s'installer à la Mecque et se réfugier dans Al-Kaaba et de dire Alhamdoulilah, je suis dans un endroit où la prière, une seule prière, équivaut à 100 000 prières ailleurs. Et je vais prendre mes réserves, je vais remplir mes réserves d'Ul Hassanat. Si je passe 20 ans à prier Allah Azza wa Jalla auprès d'Ul Kaaba, imaginez le Hassanat que je peux avoir. Mais c'est pareil, ça se double aussi. Mais c'était des gens, c'est-à-dire, ils n'étaient pas calculateurs de cette manière-là. Pour eux, il y a d'autres hasanats qui sont plus importantes et plus bénéfiques. C'est celle de transmettre la parole d'Allah Azza wa Jal ailleurs. Et c'est pour cela qu'ils ont laissé, à peine ils ont trouvé le repos, ils ont laissé leurs enfants, ils ont laissé leur bien, et ils sont partis ailleurs dans le monde. En 35 ans, les musulmans étaient sur trois continents. En 35 ans, ils étaient sur trois continents. En 35 ans, à peine on a trouvé des mosquées où on va prier, où on va faire notre devoir religieux. Bien entendu, la comparaison n'est pas pareille, on ne va pas faire de l'anachronisme, mais c'est seulement pour vous dire que c'était des gens qui savaient qu'ils avaient une mission, ils étaient prêts à sacrifier leur être pour le bien de l'islam. Au jour d'aujourd'hui, on veut que l'islam avance avec un confort terrestre, avec un confort matériel, avec un confort... Je veux rien faire. On veut rien faire. Même ceux qui ont un certain courage de faire quelque chose, ils s'instruisent même pas dans leur religion. Le simple fait de s'instruire dans sa religion, c'est un vrai jihad. Parce qu'au moins, tu vas être doté d'une connaissance qui va te permettre de mieux parler, de mieux transmettre, de mieux défendre l'islam, de mieux éduquer la jeunesse. Mais lorsque tu n'as pas de savoir, ou tu as le courage, à quoi tu vas servir? À quoi tu vas servir? Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a faite, Allah azza wa jalla, la première chose qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Iqra. Iqra. Et c'est qu'après qu'il lui a dit, ya ayyuhal muddathir qum fa'andhir. Voilà pourquoi les savants disent, kullama zada hadhuka min iqra, zada taba'iyyatuka fi andhir. À chaque fois que ta capacité dans iqra monte, ta responsabilité dans andhir monte aussi. Proportionnel. تقرأ باش تندير. تقرأ حتى تندير. تقرأ حتى تندير. Mais avant d'en arriver là, il faut aussi que tu travailles sur toi-même. Allah Azza wa Jalla lui a dit اقرأ, ça c'est la première chose. Ensuite, il lui a dit قم الليل إلا قليلا. Travaille déjà pour ta spiritualité. On n'a pas besoin d'un musulman qui a, soi-disant, la connaissance intellectuelle. Il amasse les informations, mais il est vide au niveau de sa spiritualité. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a parlé des serviteurs du miséricordieux, qu'est-ce qu'il a dit? Ibadur Rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama wal ladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Hal ar-ruhaniyat yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Il a dit c'est les serviteurs du miséricordieux, ceux qui marchent avec humilité sur terre, là on marche avec humilité le jour, mais la nuit ils passent la nuit prosternés et debout à faire la prière. Et à invoquer Allah Azza wa Jalla. Rabbana sarif anna azaba jahannam. Inna azabaha kanat gharama. Inna kana gharama. Inna sa'at mustaqarra wa muqama. Donc, la question de travailler sa spiritualité est primordiale. Il faut instruire la raison, l'aql, et il faut instruire le cœur aussi. Avant de donner. Avant de changer le contexte. Mais si nous, on reste les bras croisés, on ne fait rien. Et certains vont dire, mais comment je vais changer le contexte? Beaucoup croient qu'on ne peut changer la communauté musulmane que lorsque j'ai un micro à côté de ma bouche, comme dans mon cas. C'est là où je vais changer. C'est faux. Ou je vais changer la situation lorsque j'ai le minbar. Je vais monter sur le minbar. Donc là, je peux changer la situation. C'est le dernier qui peut changer la situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah la yudkhilu thalatha nafarin, la yudkhilu jannata thalatha nafarin bis sahmil wahid. » Allah azza wa jal fait entrer au paradis trois personnes pour une seule flèche lancée dans le combat. Pour une seule flèche lancée dans le combat, il fait entrer trois personnes au paradis. La première, c'est celle qui a façonné cette flèche, fisabilillah. Ça veut dire cet artisan, ce menuisier qui a préparé la flèche là. Je le fais pour Dieu. Ouais, il ne sait pas faire la guerre, il n'a pas la force pour faire la guerre. Ouais, il prépare cette arme pour celui qui va faire. Alors, je parle de guerre, ça ne veut pas dire que je vous dis de prendre les clashs, que vous sortir. Allez, mettez ce que je dis dans son contexte. Hein. Pour qu'on ne dise pas. Notre combat, c'est un combat qui se passe ici, c'est pas un combat qui se passe comme ça. Ça n'a jamais été le dessein principal de l'islam. Ça, c'était un moyen. Le combat avec les armes, ça, c'est un moyen qui était imposé par le contexte, qui s'impose par le contexte, qui était imposé par le contexte, qui peut s'imposer par le contexte à n'importe quelle époque. Mais d'abord, on n'est pas dans ce cas de figure, du tout, mais du tout, loin de là. Donc, celui qui façonne la flèche et celui qui la donne au combattant, ça, ouais, il entre, parce que lui aussi, il se met en danger. Mais je vis le combattant, il a besoin de prendre une flèche derrière l'autre, il ne va pas prendre une tonne de flèche sur son dos. Donc, il y a un qui lui donne. Donc, lui aussi, il intervient dans ce jihad-là. Il est dans la réussite de l'autre. Donc lui, il lui donne. Ada qui lui donne, ouais, il prend, il tire. Et celui qui l'attire. Les trois peuvent entrer au paradis. Alors que la première personne est loin du champ du combat. Tout ça, c'est pour dire que chacun de nous doit sentir avoir une responsabilité et un rôle à jouer dans l'épanouissement de notre communauté. Et dans le changement du contexte actuel que nous sommes en train de vivre. Cette islamophobie, ainsi de suite, nous sommes tous concernés. Mais il faut passer par des étapes. La première de ces étapes-là, donc, c'est avoir déjà l'ikhlas. C'est-à-dire, on fait ça pour Allah Azza wa Jalla. Je ne le fais pas pour avoir de la notoriété, pour avoir de l'argent, pour avoir une place ici, pour être bien vu par telle personne, bien valorisé par telle personne. Tu le fais lillahi tabaraka wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Mukhlisina lahu ad-din. C'est pour Allah Azza wa Jalla qu'on fait ça. Parce qu'on attend la récompense de lui. La deuxième chose, c'est l'acquisition du savoir. Iqra. L'acquisition du savoir. Le vrai savoir. La connaissance de l'islam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fi din. Le fiqh dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas de dire le halal ou le haram. C'est le fiqh technique. Il faqqihhu fi din comprend l'essence de la religion. Et il comprend les grands objectifs de la religion. Et il comprend les desseins de la religion. Pourquoi la religion existe? Pourquoi Dieu a instauré l'islam sur terre? Il comprend le pourquoi de la chose. Et il se sent qu'il est un acteur concerné par le changement de son contexte. Pour le changer dans le bon sens, pas dans le mauvais, dans le mauvais sens. Celui qui a compris ça, celui qui connaît le halal et le haram, ils sont de deux catégories. Quel est le halal et le haram? Il ne fait rien. Il amasse les informations et il connaît le halal et le haram. Lorsqu'il parle, tu restes bouche bée devant la parole. Mais est-ce qu'il a un effet sur le terrain? Il n'a aucun effet sur le terrain. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a parlé de Banu Israël en disant Laula yanhahumu rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihim al ithma wa aklihim suht. Allah Azza wa Jal a distingué entre deux. Il a parlé, il a dit ça aura été bien que rabbaniyun et l'ahbar empêchent les leurs justement de dire ce qui n'est pas acceptable ou de manger le haram. Et les savants ont dit, c'est qui? Pourquoi Dieu a distingué entre Rabbani ou l'Ahbar? L'Ahbar, ce sont qui? Ce sont les rabbins. L'Ahbar, ce sont les rabbins. Mais dans ce cas, Rabbani, c'est qui? Le rabbin, c'est celui qui a des informations religieuses, qui les transmet. Mais pourquoi Allah a cité d'abord Rabbani? Rabban vient du mot Ar-Rubban. Ar-Rubban, c'est qui? Ah, c'est le guide. C'est le général, celui qui guide le navire. On l'appelle le capitaine qui guide le navire, on l'appelle Ar-Rubban. On l'appelle en arabe Ar-Rubban. C'est de là que vient le mot Ar-Rabbaniyun. C'est de là. Et Mohamed al-Baqir, rahimahullah, radiyallahu anhu, huwa min al-bayt, قال بأن الرباني أعلى من الحبر. Ar-Rabbani est supérieur à l'habr. لأنه زاد إلى العلم زاد إلى العلم تدبيره لأمور الناس. Donc, en plus du savoir qu'a le rabbin, il a rajouté autre chose. C'est quoi? C'est la gestion des affaires des gens. فِيمَا يَنْفَعُهُمْ فِي أُمُورِ دُنْيَاهُمْ وَدِينِهِمْ فِيمَا يَنْفَعُهُمْ فِي أُمُورِ دُنْيَاهُمْ وَدِينِهِمْ. Donc, la gestion des affaires des gens dans ce qui leur est avantageux aussi bien pour leur vie terrestre que pour leur religion. Donc, autrement dit, c'est quelqu'un qui change la situation, qui essaie de changer la situation. Ce n'est pas quelqu'un qui vient, je vais vous transmettre ce que dit l'islam. قال الله تعالى, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال الله تعالى, قال رسول الله. مزيان, بلغوا عني ولو آية. ولكن, السلام عليكم, من عرفكم ما تعرفوني, من هتم بالوليدات, من هتم الأطفال, من غير من الواقع, من انطلق مع الناس, من الحم بين الناس. لا, المهمة ديال الرباني, ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. تيجي يعلم هذا الفاتحة, ويجي يعلم هذا كيفاش يقرأ عربية, ويعلم هذا كيقرأ القرآن, ويجي لهذا الوليد يقول له حفظ شوية ديال الصور, حفظ هذا شوية ديال الصور. غادي داك الشيء إلي إفيكاس, حاجة بسيطة, ولكن تيدوز واحد العام تتلقى الناس تغيروا, الأطفال تغيروا, الوليدات تغيروا, تغير من الواقع ديال الناس. احنا حتى نجي مثلا نجي نسمع على العالم ماشي باش يبدا يهضر ونقول ما شاء الله الهضره ديالو زوينه والكلام ديالو حلو, تيهضر بالشعر وتيهضر بكذا, ولكن شنو غير انا في الواقع ديالي؟ شنو غير في القلب ديالي؟ الا ما عطانيش واحد الحقنه, واحد يعني واحد الشحنه اللي غتدفعني باش نغير المجتمع ونخدم ونضحي من اجل هذا الدين, ما نفعني ولا شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يكثر من الدروس وكذا, كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخللنا بالموعظه مخافه السآمه. يقول الصحابة كان الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يدينا شي موعظة باش ما نسأموش, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خدام. الموعظة كانت في تحريك الناس وتحريك قلوب الناس وتحريك جيوبهم وتحريك يعني أموالهم وتحريك أبدانهم لله تبارك وتعالى. هذا هو التغيير الذي نحتاجه أيها الإخوة الكرام. والآن الحاجة اللي خصنا نركزوا عليها مزيان هي الوليدات الصغار والنساء. أمور مهمة بزاف, بس ما نقولوش ما نهتموش بخلنا نهتموا كل حنا, ولكن الجهد ديالنا الكبير خصو يمشي للاطفال الصغار وللنساء. لان علاش الطفل, حنا وليداتنا في واحد الوقت كنا بعاد, دابا الحمد لله عندنا شباب, 20 عام 30 عام راه مابقاش راه ولاو رجال بالاسر ديالهم خدامين كذا هادو خصنا نستغلوهم باش نكونوا الاطفال يعني كل واحد الا كون 10 ديال الوليدات 20 وليد يعني ما كاينش الجامع اللي لا بدا تكون فيه واحد 100 دري تيقراو 200 دري تيقراو ولكن يتربوا واحد التربيه اللي قويه ونعطيو المجهود ديالنا كله للاطفال نوجهوا للاطفال باش يتعلم الدين من الصغر هذا الولد اللي يتعلم الدين من الصغر يستحيل يكون من الناس اللي تيمشيو للحبس ويستحيل ما يكون من هذوك اللي غادي يشوف فيك شوفه ويقول لك انت راك ما تعرف الدين وهذا لانه فهم من الاول ما كانش عنده العقده من الصغر نورتي له العقل ديالو نورتي له القلب نتاعو وكان مفتخر بالدين نتاعو اذا هذا ما غنكلوش يكون يعني عضو سلبي في المجتمع لا مع المسلمين ولا مع النصارى غيكون عضو ايجابي في المجتمع بروميير لو برومي دومين دون لوكيل فو كون ديفيرس لو ماكسيموم دي فور سي ليدوكاسيون دي زونفون اي سي انتريسي اوز زونفون نو سوزيستيمي با ce domaine-là, chers frères. Une mosquée qui réussit, c'est une mosquée qui donne le maximum de ses activités à l'endroit des enfants. Parce que là, tu prépares la nouvelle génération. Tu prépares à long terme. Parce qu'un enfant, déjà, tu vas sauver la société de son mal, si tu l'éduques depuis son enfance, jamais il ne sera parmi ceux qui vont remplir la prison, et jamais il ne sera parmi ceux qui vont rejeter leurs propres frères. Pour une incompréhension de la religion, une mauvaise connaissance de la religion. S'il grandit dans la connaissance de la religion, une connaissance équilibrée, une connaissance riche, il va être un élément positif, aussi bien pour les musulmans que pour les non-musulmans. Et ça, c'est primordial et c'est nécessaire. Et on doit passer par là. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose, c'est s'intéresser à la femme, à l'éducation de la femme. Nos femmes, elles ont beaucoup de temps. D'accord ? Elles ne trouvent pas comment remplir leur temps. Où les femmes se sont, c'est l'élément qui a le plus de la famille, qui a le plus de contact avec l'enfant. Et c'est la personne qui passe le plus d'éducation à l'enfant, qu'on le veuille ou pas. Et c'est pour cela qu'une femme, une mère, qui a été bien éduquée, qui a été bien formée, forcément ne peut que bien former son enfant. Et une mère qui est vide, ne peut que donner un enfant qui est vide. Voilà pourquoi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, il est en train de mourir. Il est en train de mourir, où il prend la défensive des femmes. Intéressez-vous aux femmes, dans le sens où il faut les éduquer, il faut les orienter. Parce qu'une femme aussi qui est tordue, c'est une femme qui fait effondrer une famille. Ou quand tu as dit, tu as dit, s'intéresser énormément à la jeunesse, s'intéresser surtout aux enfants, s'intéresser aux femmes. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait aux jeunes, il leur donnait une considération comme s'ils étaient des adultes. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, il racontait, il disait, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son âne. Imaginez cette scène-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son âne, ou Mu'adh derrière lui, un enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ya Mu'adh, oh Mu'adh, il lui a dit la baika ya Rasulallah. Il a dit, il n'a rien dit ensuite. On a marché sur l'âme. Imaginez cette scène. Il dit, ben là, je suis chez Imam, le chez Alim, qui se m'a chouli, il dit, ah, c'est Ibrahim. Il dit, c'est Imam Rahmak, mskin, là, d'où là. Il dit, je suis Rasulallah, ya Mu'adh, l'autre dit, la baika ya Rasulallah. Rasulallah, il dit, c'est pas sec, j'ai dit, ya Mu'adh, la baika ya Rasulallah, j'ai dit, mais tu es heureux. Ya Mu'adh, la baika ya Rasulallah. قال أتدري حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم قال له يا معاذ قال له لبيك يا رسول الله خاصني غادي يا معاذ شو كنت التربية مع دري صغير تربيه واش غنكون احنا احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا وعلاش هو تيهتم الأطفال احنا ما نهتموش بهم يا ابن أم معاذ قال له أتدري ما حق الله على عبادي إن هم فعلوا ذلك قال له الله رسوله عنه قال حقه عليهم أن يدخلهم الجنة وهذا شيء كثير في السيرة النبوية لما تشوفوا أحد الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات اتق الله احفظ الله يحفظك يا غلام دري صغير إني أعلمك تجلس يعلمك إني وهذا ما استنكفش الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم دراري صغار إني أعلمك كلمات لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس حداها عبد الله بن بن بن, بن عباس الجنب ديالو وحده من الجنب الاخر ابو بكر الصديق وجا قادح من اللبن خصو يبدا باللي علمهم وعلمهم دري صغير وعلى اليسر ابو بكر والناس الكبار الشيوخ ولكن الرسول ما هضمنوش الحق ديالو عطاهم اللبن
قال له دار له يا غلام، قال له أتأذن واش تعطيني الإذن باش نعطي الحليب يشربوا هذا الحليب بداهم الأولين؟ شو الاحترام؟ لأنك أنت اللي عندك الحق في الأول، إلا تأذن ما كان مشكل. فشوف عشان الفهم ديال الدريك، وكان حنا تقول ما كان مشكل الحاج. لا، الولد قال له والله لا أوثر غيري بحقي فيك. قال له ما أعطيش أنا ديك المدة اللي نشرب من الغرف اللي تشربتي منه، هذيك نتبرك منك ونعطيها نخلي ديك البركة ناخذ منك مباشرة ونعطيها لواحد آخر. قال له والله ما تدوز أنا الأول. فتله في يده، خذ الرسول صلى الله عليه وسلم القدح ودفعوا قال الله هك يلاه تهدوه هذا تا هو عطى الحق ديالو ما عنده ما يتكلم. هذا الاحترام ديال الأطفال أيها الإخوة الكرام، احترام ديال الأطفال ديالنا، ولا بد أن نهتم بهذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم من هنا بدأ، كان عنده دريوريين صغار، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، هذو كانوا أطفال صغار، معاذ بن جبل. إن معاذ بن جبل قال لك أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية فحذقتها في نصف شهر. اللغة السريانية كانت هي اللغة اليهود آنذاك، قال لك تعلمتها في 15 يوم. قال لك خصني نتعلم اللغة السريانية، تعلمتها في 15 يوم، مشى عند الدري تيعلمو باش ينفع المسلمين فيما بعد. وهذو هما الذين نصروا، عبد الله بن الزبير، هذو هما الذين نصروا الإسلام فيما بعد، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم الحق اللي يستاهلوه. وأختم حتى لا يأخذنا الوقت كثيرا، خصنا المسلمين بصفة عامة نفتحوا على غير المسلمين. لما الله تبارك وتعالى يقول قل يا أهل الكتاب ياش تعالوا إلى كلمة سواء بين، ما معنى تعالوا؟ إن شكون تعيط وشما تعيطون وإحنا تنعيطون لهم، إحنا تنعيطون لهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا، إحنا بعض المرات ما تعيطون إحنا ما تمشيوش، تقول كاش نديروا الانتيغوليجي ولا جينا نديروا واحد المحاضرة ما كاينش تمشيو في المسلمين. الأصل والعكس، إحنا اللي تنقول لهم تعالوا. وين باش تقول له تعالوا خصك أنت تفتح عليه، خصو يعرف لما تدخل أنت لشي جامع تبدا يقول له شتي يديروا في ذاك الجامع. أسيدي أجي تشوف شنو نديرو في ذاك الجامع، مرحبا بك أجي تدخل. حنا درنا تجربة في نونسي في شهر سبتمبر في ذاك لا جورني دو باتريموان، قلنا علاش حنا ما نحلوش الجامع للنصارى يجيو يشوفوا؟ كاين اللي غنقولكم النصارى يدخلوا الجامع أنا نعطيكم الدليل ديالها. قلنا علاش ما نحلوش المسجد للنصارى؟ فعلا مشينا عند السلطات قلنا راه بغينا ندخلوا في ذاك البروغرام ديال جورني دو باتريموان. قال لك أودي هذا العام دايرين هذا لا جورني دو باتريموان سولمون بوغ لي باتيمون سونتنير اللي فايتين 100 عام، ثم الجامع ديالكم مازال جديد. قلنا لهم ولكن حنا بغينا نفتحوا. قال لك هذه فكره زوينه، اذا قال لك انتم اتصلوا حنا غادي ندعموكم، اتصلوا انتم بالصحافه بفرانس 3 واتصلوا بفرانس بلو وكذا هذه والجورنال ويديروا لكم اشهار. فعلا اتصلنا بهم دوزوا لنا اشهار في التلفازه وزور الجامع فلان فلاني غنطوم لا غادي ينفتح يومين الزوار اللي بغى يجي يزوروا كذا. حضروا لنا ايها الاخوه الكرام 500 واحد اللي حضروا، 500 واحد هذا القليله اللي كتبناها هذو امام واحد الوقت بقاو يدخلوا الشباب ما بقاوش يقدروا يكتبوا اللي كتبناهم 500 واحد تيجي كل واحد نقول منين جيتي وكيف درتي عرفتي باننا حنا حالين وكذا. 500 واحد وما يمكن لكمش تصوروا التغيير اللي جرى في العقل ديالهم لما دخلوا المسجد. ولكن شنو وجدنا غير الشباب، استقبلوهم الشباب في الدخله كل واحد بالباج ديالو تيبداو بلاص بمكان الوضوء. هاجي تشوف هذا الوضوء تتوضاو تنطهروا تيبين لهم لا سامبول تيبغوا هما دوك لي سامبوليك وكذا. من بعد تنقول لهم انتم تحيدوا صبابكم الله يجازيكم بخير باش تدخلوا. تيدخلوا الجامع درنا لهم دي بوستات يقراوا واش تيقول النصرانيه الاسلام على بالنسبه للنصرانيه الاسلام وكذا الاسلام والمراه الاسلام وكذا. من بعد تنوريهم هذا الفسيفساء وهذا القبص على منين جاي الاندلس تبين لهم داك الشيء يعني الحضاري ديال الاسلام الاركيتكتور المسلمان. من بعد تديهم الكاليغرافي واحد الاخ تيكتب لهم اللي بغا يكتب سميتو فابور هذا هو الكادو ديال الجامع تيقول له شنو سميتك كتبها له بالخط العربي الجميل تيقول له هكذا كادو ديال الجامع تمشي فرحان بها غادي يبدا كله خارج فرحان بحال يهزم ما عرف شنو هي راه والو القصبه والمداد وغادي فرحان بها هذيك دابا فين يمشي علقه وكذا. من بعد عطيناهم الاخوات بالحجاب نتاعهم تيفسروا لهم مبادئ الاسلام اصول الاسلام تبقى معجبين المراه البنت شابه بالحجاب كي تتكلم ديك النظره اللي كان واخد عليها بان راجلها قاهرها وباها تيقول لها ديري الحجاب يعني تيقال بنت مفتحه وقاريه وجامعيه بقاو تعجبوا تيقول لك منين انت اختي ديري انا استاذه في كذا انا قاريه كذا انا في الجامعه بقاو ما حالين في المهم. حتى المدرسه جا قال لهم انا طريقة باش جاتي سول مع الحجاب وكذا قال لهم طريقة باش جاوبوني يعني بهضوني بالمستوى الثقافي اللي عندهم. من بعد دخلنا واحد البيت وجدنا له فيه القرآن الكريم، القرآن الكريم من غير بروجيكتور وحنا كنا خايفين اللي يقول لك هذا راه بروزيليتيزم وكذا. واختارنا آية قرآنية والترجمة ديالو آية قرآنية اللي في الصميم بالترجمة نتاعها هو تيسمع والترجمة تتبان له في ليكرون ترجمة بالفرنسية ما بغاوش يخرجوا من تما تيقول له عاود شوف لنا نشوف معاك وكلهم تيقول لك انا جامي اونتوندو سا سي ابيزون وهاد لي بارول سي بو. ومن بعد تديهم يشربوا اتاي الكاطو واتاي والغريبه وكذا وحنا عارفين إحنا تبارك الله فتشي ما كانش بحالنا وهذا تهاد وتحب وهذه من الوسائل هذه إحنا نجيبوها الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء كامل من بعد يعني خرجوا القليل في يوم تبقى ساعتين في الجامعة القليل في يوم تبقى ساعتين والجيران كلهم اللي كانوا ضدنا والمغول نديروا الجامعة يكتبوا ضدنا وهاد الناس راه ما خصناش الجامعة توفيقنا في ثلاثة كلهم تيشهدوا قال لك حنا ما كانش يصحابنا هاد الناس هكا وجبنا تعمدنا الشباب أن راه حتى يهضروا بحالكم ولادكم وتمشوا المدارس نتاعكم وما فيهم لا يعني الا تصوروا 2000 جامعة ايها الاخوة الكرام كل 2000 جامعة 2200 جامعة اللي كان في فرنسا كل واحد يجيب غير 100 في العام ويوري هاد الشيء نغيروا الواقع نغيروا الواقع هذه امور ايها الاخوة الكرام عملية وسهلة والرسول صلى الله عليه وسلم استعملها بها غادي نختم ايها الاخوة الكرام باش ما نطولش عليكم لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بسارية الى قبل نجد القوا القبض على رجل هذا الرجل اسمه ثمامة بن أثال وجاءوا به الى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوش عارفينه لما قبضوه وسجنوه وجابوا الرسول قالوا رقبتنا واحد الراجل كان تيحارب المسلمين قالوا رقبتنا جابوه لما شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا حاكم ما عرفتش شكون هذا ثمامة بن أثال سيد قوم اليمامة كانت قبيلة ديال اليمامة كان هذاك هو الشاف ديالهم هذا جو في لا دير اون فرونسي بور تيرمينو دونك جي دي parmi les choses qu'on peut faire c'est établir des portes ouvertes pas forcément à la mosquée si on n'a pas la mosquée le faire ailleurs où on explique ce qu'est l'islam. Nous avons fait l'expérience à Nancy, on a ouvert notre mosquée lors de la journée du patrimoine et on a eu 500 visites, au moins, ce qu'on a noté, c'est plus 500. Il y en avait beaucoup plus. 500 visites. Tous les voisins sont venus, les gens de partout sont venus, on a passé la publicité à la télé, on l'a passé au journal, on l'a passé à la radio et les gens sont venus. Et on les a très très bien accueillis avec les gâteaux, le thé, avec des explications bien ciblées sur l'architecture musulmane, sur l'art musulman, sur les fondements de l'islam, sur la calligraphie musulmane, sur le Coran, ils ont entendu le Coran, ils étaient bouche bée avec la traduction. Bref, le minimum qu'ils passaient à la mosquée, c'était 2 heures. Il y a ceux qui ont passé toute l'après-midi ou toute la matinée. Minimum 2 heures. Même le maire est venu, il a dit, j'ai 20 minutes à vous accorder. Zamak, c'est comme si, il faut que vous estimez heureux que je suis venu. 20 minutes à vous accorder. Il est resté 2 heures. Il n'en revenait pas, la qualité de l'accueil, et la qualité des gens qui leur parlaient. Et beaucoup ont témoigné sur place. Et ils posaient des questions. Pourquoi le hijab? Pourquoi le jihad? Pourquoi ceci? Et on leur expliquait avec calme. Et avec certitude. Et avec sérénité. Parce qu'on sait ce qu'est notre religion. Et on connaît la valeur de notre religion. Et tu imagines si tu peux changer la mentalité de 500 personnes. Et dans la journée même, il y a 3 qui se sont convertis. 2 filles qui avaient à peine 17 ans. Et un autre qui est venu 3 jours après pour se convertir. 3 personnes qui sont converties dans la journée. Sans parler de l'impact plus tard qu'on a eu, on a entendu qu'il y a eu des grandes personnalités qui sont venues, incognito, on ne savait pas qu'ils étaient. J'ai eu un infirmier qui m'a dit, le médecin chef qui est venu, c'est après qu'il m'a dit, bon, vous avez une belle mosquée, les gens sont sympathiques, ben, j'y étais. Des médecins, des gros calibres qui sont venus, nous on ne les connaissait pas. On accueillait tout le monde de la même manière. Mais imaginez si toutes les mosquées font ce travail-là. C'est un travail qui ne demande pas. C'est vrai, les anciens ne peuvent pas faire ça, mais les anciens peuvent faire un taille, un gâteau ou un kebab. Ils peuvent faire. Les jeunes doivent faire ça. Et ça, c'est des choses qui sont simples, faciles à faire. Et le professeur Asma l'a fait. Lorsque le professeur Asma a envoyé une brigade vers la région de Najd, ils ont arrêté un homme. Et ils l'ont emprisonné et ils l'ont ramené au professeur Asma. Lorsque le professeur Asma le vit, il leur dit, il s'agit de Thumama ibn Uthal. Et c'est le chef de la tribu de l'Yamama. Et cet homme-là avait déjà combattu les musulmans en alliance avec les Quraychites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ligotez-le autour d'un pilier de la mosquée, de ma mosquée. Et ils l'ont rentré à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça c'est pour vous dire qu'ils peuvent rentrer à la mosquée de Mouchriki. Mouchriki, c'est un mouchriki. C'est un mouchriki. C'est un mouchriki. C'est un mouchriki. فقط المالكيه شويه متشددين في هذه القضيه ولكن المذاهب الاخرى ما عندهمش مشكل المالكيه فقط متشددين كيفاش عندنا في البلاد ما تيبغوش التوريست يدخلوا للجوامع لان المالكيه متشددين في هذه القضيه لكن المذاهب الاخرى لا ما فيهاش مشكل وحنا خصنا نقلبوا على المصلحه ديالنا ومصلحه الاسلام هنا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ربطوه في ساريه من سواري المسجد ربطوه ومشى الرسول صلى الله عليه وسلم عند الزوجات نتاعو هي طالي شي زيبوز اي لو غادي سي فوز افي دو لا نوريتور اونفويي لا ثمامه بن اثال الي دون لا موسكي وبداو امهات المسلمين المؤمنين ils ont commencé à lui envoyer à manger à chaque fois on lui présentait à bien manger il mangeait bien premier jour Et à la fin du premier jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu le voir, lui a dit, Mada taquli ya Umama. Qu'est-ce que tu dis, Umama? Thumama. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Fierté d'elle, un chef de tribu. Il lui a dit, In taqtul, taqtul dhadami. Ou ta'fu, ta'fu an shakiri. Ou tas'al tu'ata. Il lui a dit, si tu me tues, tu as le droit de me tuer parce que j'ai déversé du sang chez vous. Tu as le droit. Si tu me libères, tu libéreras quelqu'un qui sera reconnaissant. Ta'fu an shakiri. Je serai reconnaissant à ton endroit. Et si tu demandes de l'argent, demande ce que tu veux et je te donnerai. Parce que j'ai une tribu derrière moi. Ils sont pour me délivrer, ils sont prêts à donner ce que tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a laissé, il est parti. C'est pas ce que voulait le prophète. Il ne voulait ni argent ni rien. Il voulait son islam. Il voulait sa guidance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours eu ce souci-là de guider les gens vers l'islam. Jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla l'a rassuré pour lui dire, tu peux pas. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Si ton Seigneur le voulait, tous ceux qui sont sur terre seraient musulmans. C'est pas toi qui vas les contrarier pour le devenir. Donc, c'est-à-dire, ça y est, fais ce que tu peux et c'est tout. Mais ana alaykum biwakil, je suis pas. Il voulait que tout le monde entre en islam. Là, on n'a pas ce souci. On croise les gens et ainsi de suite. Au lieu de leur parler de l'islam ou se maintenir pour dire non, ça c'est mes principes, on se métamorphose et on devient comme eux pour leur plaire. Pourquoi je suis fier de ma religion, je n'ai rien à cacher dans ma religion. Le deuxième jour, le prophète Asma est venu. Il lui a dit, qu'est-ce que tu dis, Thumama? Il lui a répété la même chose. Si tu me tues, tu as le droit de le faire parce que j'ai déversé votre sang. Si tu me libères, tu me trouveras reconnaissant. Si tu veux de l'argent, demande ce que tu veux. Troisième jour, le prophète Asma est venu. Il lui a dit la même chose et Thumama a répété par la même réponse. Le prophète Asma leur a dit, libérez-le. Ils l'ont libéré, il est sorti, il est parti à un endroit où il y avait un peu d'eau, il s'est lavé et il est revenu à la mosquée. Alléluia Mohammed. Oh Mohammed, sache qu'il n'y avait pas une personne dans le monde qui m'était aussi détestable que toi. Sache qu'il n'y avait pas une personne dans le monde qui m'était aussi détestable que toi. Et tu es à l'instant, et tu es pour moi maintenant, la personne que j'aime par-dessus tout. Et sache qu'il n'y avait pas un pays dans le monde qui m'était détestable comme le tien. Et c'est devenu le pays qui m'est le plus agréable. Et sache qu'il n'y avait pas une religion que je détestais par-dessus tout que la tienne. Et maintenant c'est la religion qui m'est préférable. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammad Rasulullah. Regardez comment le prophète a tout ça parce qu'il l'a ligoté à la mosquée. Pourquoi ligoté à la mosquée? Le prophète voulait lui dire, viens voir qui nous sommes. Regarde, ces musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ce ne sont pas des terroristes. Ils font leur prière. Ils sont des frères entre eux. Ils se saluent. Chacun demande après l'autre comment il va. On va visiter un tel, il est malade. Un tel est décédé, on va prier sur lui. Et tout pendant 3 jours, c'était 3 jours qui étaient assez suffisants pour changer l'idée qu'il s'est fait sur l'islam. Ça fait plus de 3 ans que nous sommes avec eux et on n'arrive pas. C'est pas qu'on arrive, alhamdoulilah. On parle de 40 conversions par jour. Et ça, je peux en témoigner. Dans notre mosquée, il n'y a pas une semaine où on n'a pas 2-3 conversions. 40 conversions par jour. Ça veut dire, mais est-ce que nous, on a fait quelque chose pour qu'ils changent, que ces gens changent? Là, on n'a rien fait. Parfois, là, c'est les enfants. Tu vois, j'ai grandi avec une copine, j'ai grandi avec un copain, oh, il était bien. Là, on n'a rien fait pour aller les chercher. On n'a rien fait. Même nous, 7 ans, comment ces gens-là, ils viennent de plus en plus jeunes. 17 ans, 16 ans. On se demande, mais c'est dit Allah Azza wa Jalla, c'est la religion d'Allah Azza wa Jalla. Et le prophète a voulu lui montrer qui sont ces musulmans-là, qu'il voit un petit peu un côté caché de ces musulmans-là. Et sachez que nos concitoyens ont beaucoup à apprendre de nous. Parce que eux aussi vivent un désastre. La spiritualité, on leur a arraché du cœur. Et n'importe quelle personne a de la spiritualité. Nous avons cette âme qui a besoin d'être alimentée par la spiritualité. Et les musulmans possèdent cette spiritualité. Ils ont perdu le nord par rapport à certains, par rapport à l'éthique, par rapport à la morale. Et les musulmans ont l'éthique et la morale. Mais encore faut-il la leur transmettre et la manifester dans notre comportement quotidien pour qu'ils voient que voilà l'issue, c'est ces musulmans-là, c'est cette religion-là. Mais s'ils te voient quelqu'un de révolté, quelqu'un d'ingrat, quelqu'un de non reconnaissant, quelqu'un, comment veux-tu qu'il accède à ta religion et à l'éthique de ta religion? Donc sachez, chers frères, que... Et après, Thumama ibn Uthman, pour terminer, il est parti accomplir l'Umra à la Mecque. Et c'était le premier qui a commencé à accomplir Talbiya. Labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk. et les Quraishites se sont entourés, ils l'ont entouré, ils lui ont dit Asaba'ta ya Thumama, tu as quitté, tu t'es apostasi, tu as quitté la religion de tes ancêtres. Il leur a dit non, mais j'ai attesté de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et sachez, Wallahi lan ta'khudhu minni hintatan wahidatan illa idha adhina Rasulullah. C'était lui qui leur exportait le blé. Parce qu'ils n'avaient pas de blé. Diwadil ghayridi zara. C'était lui qui leur exportait le blé depuis l'Yamama. Il leur a dit, je jure par Dieu que vous n'aurez pas un grain de blé si ce n'est pas le prophète qui m'autorise à vous l'envoyer, à vous l'exporter. Et pendant un an, il n'aura rien donné. Jusqu'à ce qu'il y ait eu une famine à la Mecque. Et les Quraishites étaient obligés de venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui ont dit, ya Muhammad, toi, avec ta religion, tu appelles à la cohésion entre les familles. Tu appelles à la solidarité. Et voilà que Thumama, qui s'est converti à ta religion, ne veut plus nous donner à manger, ne veut plus exporter le blé chez nous. Demande-lui, c'est-à-dire, tu ne vas pas nous induire dans une famine, à la mort, tu ne vas pas nous conduire à la mort. Demande-lui de nous envoyer, de nous exporter le blé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé. C'était le premier embargo dans l'histoire de l'islam. C'était Thumama ibn Uthman qui l'a fait. Et le prophète l'a autorisé pendant un an. Ensuite, il lui a dit, permet, c'est-à-dire, je t'autorise à leur exporter le blé. Donc tout ça, chers frères, c'est pour vous montrer comment un homme déjà, comment il a transformé la situation, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette idée-là de lui montrer ce que sont les musulmans à l'intérieur de la mosquée. Et Dieu sait que nos concitoyens, qu'on n'aime pas, qu'on aime, parce que ce sont quand même, on partage avec eux le même espace, on partage avec eux le même avenir, on partage avec eux le même destin. Donc leur bien réside dans notre bien et leur mal réside dans le nôtre aussi. Ça, il faut le comprendre, on ne le dit pas par démagogie. Non, ça c'est une certitude chez nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours vécu avec des non-musulmans, que ce soit à Quraysh avec des politistes qui l'ont combattu, et à Médine avec des juifs aussi, il a établi avec eux un pacte. Les musulmans ont toujours vécu avec des non-musulmans, que ce soit dans le Maghreb, au Moyen-Orient, et toujours les non-musulmans ont bien vécu. Si c'est pas certains politiques qui ont exploité justement la présence des non-musulmans pour mettre ça sur le dos des islamistes et des religieux. Donc ça c'est quelque chose qui est inhérent aux musulmans, et sachez qu'il y a 700 millions de musulmans qui vivent dans des pays non musulmans. 700 millions de musulmans qui vivent dans des pays non musulmans. Il n'y a pas que l'Europe. Il y a en Chine, il y a en Inde, qui sont des pays non musulmans. Et tout ça, c'est pour dire qu'on a la possibilité de vivre avec des non musulmans et on a la souplesse dans notre religion pour pouvoir bien vivre avec eux. Mais encore faut-il qu'on soit à la hauteur, encore faut-il qu'on connaisse très bien notre religion et qu'on travaille pour cette religion et qu'on fasse le nécessaire pour montrer la bonne image de cette religion. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ويرحم الله عبدا قال آمين. Ah, les frères, ils m'ont écrit quelque chose, ils m'ont dit un rappel pour s'inscrire sur la liste électorale avant la fin de décembre 2013. Ça, je voulais aussi en parler, mais je n'ai pas voulu vous maintenir beaucoup. Même le fait de s'inscrire dans la vie politique du pays, c'est quelque chose de très important. Mais avec nos principes, ça veut dire que tu ne délaisses jamais tes principes, parce qu'on a parfois, certains cherchent les Arabes de service ou les musulmans de service seulement pour remplir les gens. C'est parce qu'on ne veut pas qu'on nous exploite. Il faut faire très attention. J'ai mes principes, je suis intransigeant sur mes principes, et je veux participer à la vie politique. Il n'y a pas de mal à ça, mais ça ne sera pas au dépend de ma religion. Ça, il faut être clair là-dessus. Et c'est pour l'intérêt de mes concitoyens, tous mes concitoyens, y compris les musulmans, parce qu'ils n'ont personne pour les défendre. Donc ça, c'est très important. Dès lors qu'on a une force politique, bien entendu, une présence significative auprès de l'esprit de ceux qui légifèrent dans ce pays-là, sachez qu'on respectera l'islam. Autant il y a certains qui exploitent certains lobbies pour qu'on légifère contre les musulmans, autant les musulmans doivent faire beaucoup pour qu'on légifère, pas à leur avantage, là on ne demande pas ça, seulement pour qu'on leur donne leurs droits les plus basiques. Et malheureusement, nous avons la force numérique, mais il nous manque encore beaucoup de choses. Nous avons la force numérique avec laquelle on peut se faire respecter. C'est tout ce qu'on demande. On veut se faire respecter dans le respect de cette laïcité qui était le garant de l'unité nationale depuis toujours. Mais malheureusement, il y a des personnes qui la définissent autrement. Et ils veulent lui donner une autre définition que l'original, la définition originale qu'on lui a donnée au départ. Et ça, on ne pourra pas l'accepter. Alors, on est pour la laïcité. Mais la laïcité telle qu'elle a été adoptée au début du XXe siècle. Pas la laïcité de certains maintenant qui veulent la faire comme si c'était une nouvelle religion ou bien une doctrine anti-religieuse. Ça, la laïcité n'a jamais été une doctrine anti-religieuse. Elle a été une idéologie pour garantir la liberté de culte, la liberté de l'expression, et c'est tout ce que nous demandons. La liberté de culte et la liberté de notre expression, dans le respect, bien entendu, de la société, dans le respect du vivre ensemble. Et ça, c'est un long autre sujet. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل